Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Elle lui dit « Non, pas du tout, il est très bien votre nom. » Il lui dit « Et le vôtre alors ?» Elle lui dit « Carole. » Il lui dit « Votre nom va très bien, il a des distinctions. » Elle lui fait « Merci. » Ils arrivent au boulevard Haussmann. Il lui demande « Vous voulez pas qu'on se revoie ?» Elle lui dit « Malheureusement, je ne le peux pas. » Il lui dit, mais vous m'aimez un peu, n'est-ce pas? Elle est émue de voir si triste. Elle lui caresse la joue et lui dit, bien sûr que je vous aime, mais je ne peux pas, j'ai ma vie. Et vous aussi? Le chauffeur demande, alors qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez-moi là, au carrefour, après les galeries Lafayette. Tu seras très bien. Merci. Et le chauffeur va s'arrêter où elle lui a dit. Elle donne sa carte pour payer. Donne un baiser sur la joue à Denis. Elle est triste. Elle lui demande des larmes aux yeux. Je peux vous accompagner jusqu'à votre immeuble? Elle lui dit merci, je suis arrivé. Et elle sort du taxi. Est sortie du taxi en vitesse et la suit de loin. Il la voit entrer dans un immeuble, avenue de l'Opéra. Il se dit, je sais, où elle habite. Il se met sur le trottoir d'en face pour voir la façade et savoir à quel étage elle habite. Mais il ne voit que derrière les rideaux fermés des lumières tamisées. Il décide de rentrer chez lui. Il est triste et heureux, tout en même temps. Heureux d'avoir rencontré cette belle fille. Cette belle femme qui semble aimer comme lui l'aime est triste parce qu'elle ne veut plus le revoir. Mais il se dit que si elle ne veut plus le voir, c'est qu'elle est malheureuse et qu'il veut la libérer. Peut-être d'un mari vieux et méchant. Ils vivront heureux ensemble. Il marche à pied jusqu'à chez lui, c'est-à-dire chez sa mère. Les rues sont désertes. Il y a un long parcours à faire du boulevard Haussmann au boulevard Saint-Germain. Il retourne vers les quais qu'il retrouve déserts et sombres. Il a l'impression que dans l'ombre se cachent des formes de gens qui lui semblent entendre des murmures, des frissons, des froissements de vêtements. L'on dit que la nuit sortent de drôles de gens bizarres qui ont des morts étranges. Ils sont sales, ressemblent à des zombies. Très pâle, le visage fixe et maigre. Quelquefois, leurs vêtements poussiéreux et déchirés ont des taches rouges, leurs souliers aussi. Leurs mains peuvent être tachées et leur visage aussi. Mais ils ont l'air si froid et terrifiant qu'on ose leur demander quoi que ce soit. La journée, on ne les voit pas. Une légende court que ce sont des cadavres déterrés et revitalisés par des savants. Et une fois revitalisés, ils les laissent errer comme ça. Ne supporte pas le jour et se nourrit de viande fraîche. Comme il y a peu d'animaux, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus nombreux et en profusion dans une ville. Le matin, il paraît que l'on trouve des cadavres, surtout d'enfants et de femmes déchiquetés. Mais est-ce eux ou des chiens devenus sauvages? Et puis, ce ne sont que des histoires. De toute façon, que des histoires. Dans la misère, les gens s'imaginent toujours des choses plus horribles que ce qu'ils vivent pour se prouver qu'il y a plus malheureux qu'eux ou que l'aurore vient d'ailleurs, qu'elle n'est pas humaine. c'est moins horrible que de savoir que des gens comme vous et moi font des horreurs. Denis marche au milieu de ses ombres, peu rassuré. Il est plus rassurant lorsque l'on voit que lorsque l'on s'imagine de voir. Et cela ne l'empêche pas de voir le beau visage de Carole. Il veut absolument la revoir. Il aime pour la première fois. Enfin, après une longue marche, il arrive devant l'immeuble de sa mère. Un vieil immeuble des années 30, sans âge de 5 étages. L'allée est propre mais simple, escalier de pierre usé. Il habite au troisième étage. Appartement de droite. Il sonne à la porte de l'appartement de Madame Antoinette Lapleur. Il n'a pas de clé pour entrer. La porte s'ouvre, c'est sa mère, en robe de chambre bleue, cheveux blonds, bien coiffée, visage rond, élan, yeux bleus, sourcils minces et hauts, lèvres épaisses. Elle est grande et forte, mais pas trop. Elle lui dit « Entre !» Il entre. Elle ferme la porte. Elle lui dit « Tu te rends compte ?» De l'heure qu'il est ? Il lui dit, pardon, je ne sais pas. Elle a giflé et lui dit, il est 2 heures du matin et tu me laisses. Tu laisses ta mère veiller jusqu'à 2 heures du matin dans l'inquiétude. Ne recommence plus ! Lui dit en baissant les yeux, je m'excuse. Elle lui dit, tu as bien t'excuser. Je ne veux plus que tu recommences. Et qu'as-tu fait d'abord ? Il lui dit, j'ai marché. Elle lui dit, tu as marché durant tout ce temps ? Tu me prends pour une idiote ? Il lui dit, non, j'ai rencontré quelqu'un. Elle fait, je vois une fille. Elle soupire. Ça ne veut pas commencer. Je ne veux pas que tu revoies cette fille. Il lui dit, mais elle est très gentille. Elle hausse ses épaules. Elles sont toutes gentilles, mon pauvre Denis, que tu es naïf. Il lui dit, tu ne veux jamais que je voie qui que ce soit. Elle lui dit, tu n'en as pas besoin de voir quelqu'un. Je ne te suffis pas, moi. Et moi, est-ce que je vois quelqu'un? Non, tu me suffis. Je me suis sacrifié pour toi. J'ai tout abandonné. Et tu me préférerais à n'importe qui? Il lui dit, mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre, je me marie. Elle lui dit, tu n'as que 18 ans. Allez, va te coucher. Et n'oublie pas, ne rentre jamais à minuit. Tu m'as compris ? ou tu me tueras. Il s'éloigne pour aller dans sa chambre. Elle lui dit, tu me dis même pas bonne nuit. Il se retourne, tout rouge, et lui dit, bonne nuit, maman. Et il va rentrer dans sa chambre. Il en a assez d'être traité comme un enfant. Sa mère, qui ne veut voir personne, ils sont toujours que tous les deux, les vacances toujours ensemble dans cette ferme familiale, que tous les deux, emploi du temps strict, levé à 8 heures, et c'est des vacances toujours de la même façon. Petit déjeuner à la cuisine, marcher main dans la main dans le village, l'après-midi, sieste et lecture dans le jardin, le soir, domino en écoutant la radio. Quelle belle vie pour un jeune homme! Il se déshabille, furieux. Il se réveille, le jour l'a réveillé. Regarde l'heure, il est 9h. Et c'est dimanche. Il se dit que sa mère va être furieuse de le voir se lever si tard. Il soupire, se lève. Et va dans la chambre de bain. La chambre de bain est triste, faïence blanc, rien ne traîne. Il prend sa douche. Sa chambre aussi est grande. Elle ressemble à une chambre d'enfant. D'ailleurs, c'est sa chambre d'enfant. Il ne l'a pas quittée. Lit bateau, armoire à une porte, petit bureau, rangement avec des petites voitures, livre de prix, rien ne traîne. Il n'a pas de chaîne ni de CD, sa mère dit. Les loisirs, on les fait ensemble. Et la musique, on l'écoute ensemble. Elle n'aime que Debussy. Et encore, pas de télévision, une radio. L'ordinateur, ce n'est que pour les études. Vie stricte. Après s'être douchée et bien nettoyée, parce qu'elle veut, elle va regarder et passer, elle risquerait de pousser des cris terribles si elle voyait des gouttes ou des poils. Les gouttes, elle les essuierait. Si elle voit un poil, elle lui dirait de le faire, de l'enlever. C'est une chose d'homme et on ne sait pas d'où, dans quelle partie il est. Une fois qu'il s'est douché, il s'essuie. Et retourne dans sa chambre. Et il s'habille. Puis, il va mettre le linge sale dans la tourbelle s'il se trouve dans la salle de bain. Là aussi, le linge doit pas être trop sale, surtout les sous-vêtements. Le linge doit être sale, mais sans être sale. Puis, il sort de la salle de bain. Il va à la cuisine. Là, il retrouve sa mère qui astique. La cuisine est rectangulaire, meuble blanc. En le voyant, elle lui dit « Ah, te voilà enfin levé !» Il est rouge. Elle continue « Tu vois ce que c'est que de passer la nuit dehors. Après, tu ne peux plus te lever et tu perds une matinée. » Il se dit « Oui, mais j'ai gagné une nuit. » Ça revient au même. Et la nuit, c'est même mieux, parce que l'on fait pas des choses banales. Elle s'approche de lui, avec son chiffon. Elle a une blouse bleue. L'embrasse sur le front, et lui dit, « Va t'asseoir, je vais te donner ton petit déjeuner. » Il lui dit, « Je peux me servir, si tu es occupé. » Elle lui dit, « Surtout pas !» Je viens de nettoyer. Tu vas tout salir. » Il se dit, toujours sa propreté. Il va s'asseoir à table. Elle le sert. Toujours le même bol depuis qu'il est enfant. Un grand bol blanc à fleurs rouges. Toujours le même café au lait. Beaucoup de lait, peu de café. Et des tartines de miel. Sa tartine de miel, parce que pas plus d'une. Malgré qu'il adore ça, et qu'il serait triste de ne plus avoir ce petit déjeuner, aussi bon, aujourd'hui il trouve ça ridicule. Il est comme une personne qui critique ce qu'on lui donne et adore ce qu'on lui donne. Après l'avoir servi, elle retourne astiquer. Elle n'a que ça pour prouver qu'elle est une bonne mère. La propreté, rien que ça. On ne peut pas dire qu'elle n'aime pas son fils, mais elle aime comme ça. Elle aime encore plus le rôle qu'elle s'est offerte. Le rôle, un rôle en or pour la vie. Le rôle de la mère qui s'est sacrifiée pour son fils et qui ne vit que pour lui. Oui, mais pour que son rôle soit parfait, il faut que son partenaire, son fils, joue le rôle de l'enfant reconnaissant à vie. Est prêt à tout pour se sacrifier pour lui aussi pour sa mère qui s'est sacrifiée pour lui, pour la remercier de ne pas être un enfant, un fils indigne, se sacrifier lui aussi toute sa vie, faire don de sa vie à sa mère pour toujours, ne voir le monde que par elle, ne voir qu'elle, ne vouloir qu'elle. Elle lui demande d'être quasiment incestueux, tout en étant d'une chasteté irréprochable, tant morale que physique. C'est une chose surhumaine. Elle lui demande son amour et sa chasteté. Tout. Pour un enfant, cela peut être à peu près supportable. Quoique vivre sans amis, seul, toujours seul, avec sa mère, et lui dire, lui prouver constamment qu'on l'aime. Cela peut être éprouvant pour une personne, même une personne qui a du corps. Mais pour un adolescent, c'est quasiment de la torture. Car l'adolescent instinctivement recherche pour se faire sa personnalité, pour se libérer et aimer d'autres personnes que les siens. Si on le force, comme lorsqu'il était enfant, de vivre avec comme centre que sa mère, pour lui, c'est une torture horrible, immense, inhumaine. Puisque des instincts le poussent à une autre vie. Mais sa mère ne s'occupe pas de ce genre de choses. Bien au contraire, plus on grandit, plus son fils grandit, et plus il doit être bien avec sa mère. Car en grandissant, il doit comprendre le sacrifice qu'elle lui a fait. Après avoir pris son petit déjeuner, pour lui être agréable, il se lève pour aller avec... Il prend son bol parce qu'il veut aller le laver à l'évier. Elle le voit, elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui répond « Je vais laver le bol. » Elle lui dit « Non, laisse !» Tu vas te mettre des gouttes jusqu'à terre. Alors il dépose le bol sur l'évier et sort de la cuisine. Elle lui demande, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, je vais étudier un peu dans ma chambre. Elle lui dit, tu ne restes pas un moment avec moi? Ah oui, je vois. Tu es en retard dans tes études à cause de cette fille. Il lui dit timidement, mais je ne l'ai vue que 2 heures. Elle lui dit, 2 heures de retard. Et ça change toute une vie. Regarde-moi, j'avais 2 heures d'avance à mon travail. Ça m'a permis de penser, de peser ma décision, la décision de ma vie. Et de quitter ton père, de tout laisser en n'emportant que toi. J'ai fait ce sacrifice à cause de deux heures d'avance. Il se dit, mais aussi, moi aussi, mes 2 heures vont changer ma vie. Et et il va, sort de la cuisine pour aller dans sa chambre étudier. Mais une fois dans sa chambre, il s'assoit à son bureau . Il n'a plus envie d'étudier. Il n'a plus envie d'étudier. Il a envie, c'est de revoir Carole, cette belle fille. Il la sent contre lui, son parfum, sa douceur. Il la désire de plus en plus. À 18 ans, le désir est si fort, il n'en peut plus. Alors, il se défait. Écarte les jambes et fait ce qu'il a à faire. Cela lui fait du bien. Il y voit trouble. Tout à coup, la porte a claqué. Il se retourne et voit sa mère. Elle l'a vu. Oui, elle l'a vu. Elle est partie en courant. Il est furieux et a honte. Elle l'a vu. Il se remet en place. Il a tout bien rangé. Il n'a pas eu le temps de finir, donc il n'a pas son lit. Comme elle dirait. Il n'ose rien faire. À la tête vide. Honte, honte. Il n'osera plus la regarder en face. Et il devient furieux. Il se dit, pourquoi n'a-t-elle pas frappé avant d'entrer ? Je ne suis plus un enfant. Elle l'a fait une ou deux fois dans la salle de bain alors qu'il prenait sa douche. La porte s'est ouverte. Il sursaute, c'est elle. Il n'ose pas voir. Elle va vers lui. On dirait qu'elle n'a pas honte. C'est son fils, il est à elle. Elle lui dit, je suis très déçue. Je ne croyais pas ça de toi, mon pauvre Denis. Tu es comme les autres. Tu te laveras bien les mains avant de manger. Quel dégoûtant! Et elle sort de la pièce. Parce qu'elle l'a vu faire cela, il la déteste. Il a tellement honte qu'il aimerait qu'elle disparaisse. Pour effacer cette honte, il aimerait qu'elle disparaisse. Quel affront! Chaque fois qu'elle le verra, il se dira qu'elle l'a vu en train de faire la chose, et même qu'elle le sait. Quelle honte! C'est la honte suprême pour un fils que d'avoir vu, que d'être vu par sa mère en train de... Elle va le dénigrer, l'abaisser à cause de ça. Pour elle, il a agi comme une bête. Elle, qui l'a élevé proprement, comment a-t-il pu faire ça? Et qui le lui a appris? C'est à l'université, ses mauvaises fréquentations. D'ailleurs, quand lui qu'il est là-bas, il n'est plus le même. On lui a appris des choses. Ce sont eux qui l'ont. Oui, ce sont eux qui l'ont entraîné vers cette fille hier au soir. Et lui, trop naïf, simple, il s'est laissé mener pour faire comme les autres. Mais il n'a pas vu que les autres se moquaient de lui. Oui, ils lui ont fait faire cette chose pour se moquer de lui. Pauvre petit. Elle va frapper à la porte de sa chambre. Le déjeuner est servi et prêt, viens. Mais avant, tu te laves très bien les mains, petit dégoûtant. Il soupire, il n'a pas envie de la voir. Il a honte. Et se dit que s'il ne va pas, ça va être encore plus pire. Donc, il sort de sa chambre, sans s'être lavé les mains. Et va... sans la manger. Et on la retrouve, sa mère. La semble à manger et meublée Henri III, sombre, avec de petites vitres. Il y a des plantes vertes, des photos sur le buffet, de lui à tout âge. La table est mise, il se met à table. Elle lui demande, tu t'es bien lavé les mains? Il lui répond rouge honte, parce qu'il sait l'image qu'elle a sous les yeux. Oui, elle se dit qu'elle doit aimer. Il se dit qu'il doit aimer. Qu'elle doit aimer m'humilier pour que je sois faible et à sa merci. Tout en le servant du ragoût avec des haricots verts, elle lui dit « Mon pauvre petit, on se moque de toi. » En te faisant et en te prenant, en t'apprenant des choses à faire qu'il ne faut pas. Ce sont ces jeunes que tu fréquentes. Il lui dit, je fréquente personne, mère. Elle lui dit, ne me raconte pas d'histoire. Il ne te serait jamais venu à l'idée ces choses dégradantes, tout aussi sales. Ce n'est pas moi qui te les ai apprises. Il se dit, il ne me manquerait plus que ça, mais si elle savait que ça aurait servi à le garder près d'elle, elle le lui aurait apprise. Il n'aime plus du tout sa mère à cause de ça et veut la voir disparaître. Elle lui demande, « T'as fini tes révisions ?»« Oui, mère. » Elle lui dit, « Bien, cet après-midi, j'ai envie de faire un domino avec toi. » Il se voit au salon, en écoutant la radio, en jouant au domino. Vieux domino qu'elle a eu de son père. Lorsqu'elle est partie, elle les a embarqués en se disant que ça servira de distraction pour le petit. Même avant de savoir parler, il jouait au domino. Elle était fière qu'il jouât au domino si jeune. En réalité, il s'amusait en singeant sa mère, en déplaçant un domino et quelquefois la chance, le hasard faisait bien les choses. Mais sa mère était tout heureuse et disait « Comme il est en avance sur son âge !» Les dominos, le soir, le dimanche après-midi, elle dit toujours, elle a toujours dit, on est bien chez soi, on n'a rien, on n'a besoin de personne, on n'a besoin de rien. Il n'a jamais eu de petits camarades de jeu. Il n'a jamais pu en avoir. Pas de maternelle. Car ça apporte des maladies et les enfants sont grossiers. La primaire privée. Elle surveillait, le ramenait. Elle avait dit au directeur de l'établissement qu'il était fragile. Et son père ne s'occupait plus de lui. Il fallait bien le surveiller et qu'il n'ait pas de mauvaises rencontres. Le directeur a prévenu que le petit était très fragile. Pas de gymnastique, récréation surveillée, c'est-à-dire à côté du préau, etc. Les autres enfants pensaient qu'il était malade. Il avait une maladie du corps. On le laissait tranquille et personne ne lui parlait. Lorsqu'il avait de mauvaises notes, on disait que ce n'était pas de sa faute. Un enfant fragile, mais en avance pour son âge. En avance en quoi? En sa sagesse, son calme. Il ne courait pas comme les enfants, ni à l'école, ni sur le chemin qu'il ramenait à la maison. Sa mère ne voulait pas. Tu vas tomber. Tu vas prendre froid. Elle habillait trop, pull, foulard, casquette, pantalon long, longues chaussettes, des tas de maillots de corps. La bouche remplie de médicaments contre les maux de gorge. Les poches remplies de mouchoirs parfumés à la lavande. Il avait pour son goûter des petits pains au lait et du chocolat fait par la mère. Et un fruit pour les vitamines. Donc, avec cette vie, il était toujours seul. Au milieu des élèves, on faisait un vide autour de lui. Personne ne voulait s'asseoir à ses côtés. Et même maintenant, à l'université, c'est la même chose. Au milieu de ces demi-sauvages, débraillés, sales, lui propres, en costume cravate, sentant la lavande, cartable et feuilles propres, on le regardait d'un drôle d'œil. Et l'on disait que c'était un fasciste, nazi, extrême droite, raciste, etc. Parce que lorsqu'un jeune est propre, c'est obligatoirement un fasciste, etc. Et le pauvre, il est le seul fasciste nazi raciste de l'université entière. Et au fur et à mesure, se fait un vide autour de lui. Même les professeurs qui ne veulent pas des fascistes réac ne parlent pas à ce fasciste. Il est isolé. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.